7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Samira Ibrahim.
Bonjour et bienvenue les voisines et les voisins. Ils ont moins de 25 ans. Ils surfent, cliquent, tweetent, snap et zap comme ils respirent. Aujourd'hui dans 7 milliards de voisins, nous parlons d'une génération hyper connectée, la génération Z. Une génération perçue à elle seule comme une véritable révolution. Née dans le numérique, ils sont accros à la technologie, se réveillent, vivent et dorment avec leur smartphone. Plus de 80% de ces jeunes en sont équipés. On les appelle aussi la génération hashtag, la génération connectée. On les présente souvent comme des personnes superficielles, matérialistes, zappeurs, slasheurs, n'ayant que trop peu le goût du travail ou de l'effort. Ou à l'opposé, on dit qu'ils sont audacieux, créatifs, autonomes, débrouillards, engagés et en quête d'authenticité. Loin des clichés et des stéréotypes, allons à la rencontre de cette jeune génération qui s'apprête à entrer sur le marché du travail. Et qui sont les Z? Quelles sont leurs aspirations? Quels sont leurs modes de consommation et de communication? Cette génération a-t-elle une vision du monde vraiment différente de la nôtre? C'est à toutes ces questions que nous allons tenter de répondre avec nos invités. D'abord en duplex de Lille et grâce aux moyens techniques de France Bleu Nord, Élodie Gentina, bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Alors vous êtes docteur, enseignante, chercheuse à l'IESSEG School of Management à Lille. Vous êtes spécialiste de la génération Z et auteur de nombreux ouvrages sur le même thème, notamment Génération Z, des Z consommateurs aux Z collaborateurs, coécrit avec Marie-Ève Delécluse aux éditions Duno. Bonjour.
Bonjour, enchantée.
Vous allez bien?
Très bien, merci.
Merci d'être avec nous. Et avec nous en studio, Mathilde Lecoz. Bonjour, vous êtes directrice recrutement, développement des talents et innovation RH chez Mazars France. C'est un groupe international d'audit et de conseil. Et vous êtes aussi co-auteur de l'étude La génération Z et le Future of Work. C'est ça?
Oui, c'est ça. Bonjour,
bonjour, ravie d'être bienvenue. Là. Merci. Nous appellerons tout à l'heure également Adélaïde Friboulet, qui est auteur de la chronique Slasher ou l'avenir de la génération Z, ainsi que d'un blog qui s'appelle Les Chroniques d'Adélaïde. Adélaïde est également gestionnaire d'une entreprise de bâtiment et elle préfère clairement recruter des jeunes de la génération Z. Elle nous en dira un peu plus dans quelques instants. Et enfin, comment parler de la génération Z sans un jeune Z? Sans eux, quoi. Nous serons également en ligne tout à l'heure avec la jeune blogueuse de 19 ans, Clara Delcroix. Elle sera avec nous depuis Vilnius, en Lituanie, où elle poursuit ses études dans le cadre du programme Erasmus. Elle nous parlera de son blog Gen Z Pure Génération sur la plateforme de blogueurs de RFI Mondoblog. Elle nous parlera également de sa vie de jeune Z Génération et plus précisément de comment est-ce qu'elle communique, comment quelle plateforme elle préfère, est-ce qu'elle est plus Snap, FaceTime ou Mail. On verra ça tout à l'heure avec elle et vous aussi, les voisins et les voisines, où que vous soyez. Vous le savez, vous avez la parole. Vos réactions, commentaires et questions sur notre messagerie sont attendues sur WhatsApp ou au 33 1 84 22 71 71. Et puis, n'oubliez pas, en fin d'émission, comme chaque lundi, vous retrouverez la chronique de Charlie Dupiau, l'Afrique qui gagne, portrait aujourd'hui de Dogat Dogui, fondateur du réseau interafricain de PME, le Africa SMB Forum. C'est une plateforme panafricaine d'accompagnement des PME à l'international.
7 milliards de voisins.
On est en forme.
C'est l'attitude qui gagne.
Et tout de suite, pour commencer, nous avons Ninel à Yaoundé. Ninel, vous avez 26 ans. Bonjour et bienvenue dans 7 milliards de voisins.
Bonjour Samira.
Comment allez-vous, Ninel?
Ah, je vais bien.
Alors, vous êtes née un petit peu plus tôt, hein, donc vous n'êtes peut-être pas tout à fait de cette génération, mais vous vous y reconnaissez, vous êtes toujours le nez sur votre, ou la tête dans votre téléphone, toujours derrière un écran, et vous dites que ça vous aide dans votre vie quotidienne. Pourquoi?
Ah oui, déjà parce que, enfin, je me reconnais dans cette génération, parce que j'ai toujours le nez dans mon téléphone. Mm-hmm. Et je suis handicapée, du coup, je ne sors pas beaucoup. Alors, oui. À travers le numérique, j'ai une roue, deux roues chez moi, deux roues dans le monde.
D'accord.
Ça me permet de faire du militantisme numérique. Par exemple, je suis chargée de com pour Fiatop, une plateforme de crowdfunding. On aide des jeunes porteurs de projets dans toute l'Afrique. Je communique avec les gens sur toute l'Afrique, dans la diaspora. On les aide. J'ai un blog où je parle du handicap pour donner de la visibilité aux personnes handicapées. Voilà. Et comme la génération Z, j'ai une certaine conscience quoi, écologique. Par exemple, je vais faire de l'éco-jogging avec APC. Bref, c'est du militantisme à coup d'hashtag, hashtag Access 2019.
Oui, vous dites que vous êtes très présente sur Twitter. D'ailleurs, vous dites que c'est une fenêtre ouverte pour vous. Vous-même, vous êtes vous êtes handicapée. Vous dites que ça vous permet d'être toujours en lien avec les autres et de vous engager. C'est ça, vous avez un combat pour les femmes handicapées. Vous travaillez sur le crowdfunding. Donc, ça vous permet de continuer à travailler tout en étant chez vous, c'est ça?
Voilà, et en m'amusant, il y a ces un métier qui a du sens. Et en restant à la maison depuis ma chambre.
Ninelle, j'imagine que c'est vraiment un sujet qui vous intéresse. Nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec vous, avec mes invités en plateau. En tout cas, merci de nous avoir appelés. Restez toujours à l'écoute et continuez à participer. Ninelle, merci
et
beaucoup.
Merci
infiniment. J'ai envie d'aller vous voir à Lille tout de suite, Élodie Gentina, puisque Mathilde, je vous ai en studio, pour m'expliquer un petit peu, pour expliquer aux auditeurs qui sont peut-être au quotidien, au contact avec cette génération Z et qui finalement lisent énormément d'études, entendent souvent parler d'eux, mais ne savent pas qui ils sont réellement. Donc, est-ce que vous pouvez nous les présenter, Élodie Gentina, puisque vous êtes une spécialiste? Ça fait plus de 10 ans que vous travaillez sur cette thématique. Pouvez-vous nous présenter la génération Z?
Oui, bien sûr. En fait, les Z regroupent les individus qui sont nés après 1995, donc tous ceux qui ont moins de 23 ans. Plutôt que parler de Z et de phénomènes générationnels qu'on peut remettre en cause, je préfère parler de digital natives. En fait, ils sont nés avec cette quatrième révolution numérique. Et ils sont nés et ils connaissent que le digital, contrairement à la génération précédente, les Y, qui sont des digital migrants. Donc il faut quand même bien rappeler que l'âge ne suffit pas à définir une génération, qu'il est très important de comprendre le contexte sociétal qui s'incarne dans une génération. Au-delà d'un phénomène générationnel, c'est toute une époque. On discutait tout à l'heure, moi je me retrouve dans cette génération Z, pourtant je fais partie de la Y, ou pourtant je suis X, ou pourtant je suis baby boomer. En fait, la génération Z, pour moi, c'est un peu le symptôme vivant d'un monde qui est en profonde mutation, qui vient perturber les codes de la société, de l'entreprise, au même type que la numérisation, la postmodernité, le postmatérialisme, tout ce qu'on traverse aujourd'hui. Donc en 2025, les jeunes représentent quand même 75% de la population active. Et ce qui est important de comprendre, c'est que les Z n'ont pas encore pleinement intégré l'entreprise, c'est en train d'arriver. Et une façon de bien les comprendre, c'est de les comprendre dans la société, société de consommation.
Oui.
Comment ils consomment, c'est quoi la relation à l'éthique, à l'innovation, à leur téléphone portable, etc. Pour ensuite mieux comprendre leur comportement qu'ils auront dans l'entreprise demain. Et c'est l'objectif aussi de l'ouvrage en fait, que j'ai écrit avec Marie-Ève de Lecluse, Génération Z, des Z consommateurs aux Z collaborateurs, sorti chez Duno. Et pour cela, on a mené une étude auprès de à peu près plus de 2000 jeunes, des ados, mais aussi des jeunes étudiants voués à faire des études ensuite pour comprendre leur comportement dans la société et en prédire un certain nombre de comportements dans l'entreprise de demain.
Les jeunes que vous avez interrogés avaient entre 15 et 23 ans, c'est bien ça?
Oui.
Donc combien d'entretiens avec ces jeunes?
On a lancé un questionnaire en ligne auprès de 2300 jeunes.
Oui.
Donc adolescents, lycéens de la seconde à la terminale. Puis ensuite, plutôt voués étudiants, issus d'écoles d'ingénieurs, commerce, IUT, BTS, université. Donc plutôt des jeunes dans un cursus voué à faire des études pour comprendre la perception qu'ils ont et les attentes qu'ils ont de l'entreprise de demain.
D'accord, et donc ils ne sont pas encore arrivés dans le monde de l'entreprise. Là, on voit qu'il y a énormément, moi j'ai vu profusion hein, d'articles, d'études, et ils vont bientôt arriver dans le monde de l'entreprise. L'entreprise est aux aguets, elle voudrait évidemment savoir qui sont ces jeunes de la génération Z, et c'est pour ça que des ouvrages comme le vôtre sont très intéressants. Vous, Mathilde Lecosse, vous travaillez pour Mazars, vous êtes donc directrice de recrutement, développement des talents et innovation RH chez Mazars, et vous aussi, vous avez mené une enquête. Alors, pourquoi c'est important pour vous de savoir qui sont vraiment ces jeunes de la génération Z ?
Tout simplement déjà parce que chez Mazars, on recrute énormément de jeunes diplômés. Et donc la génération Z est en train d'arriver sur le marché du travail. Et en tant que responsable RH, lorsqu'on déploie une politique RH, on a un double objectif, je dirais, donc attirer de jeunes collaborateurs et les retenir. Et pour bien être en mesure de répondre à leurs attentes, ça nécessite de bien les connaître. Et c'est vrai que du coup, nous, on avait beaucoup l'habitude de travailler des collaborateurs issus de la génération dite Y, qui aujourd'hui représente plus de 80% de nos effectifs. Mais la génération Z, qu'en est-il ? C'était important qu'on les questionne quant à leurs attentes vis-à-vis de l'entreprise en termes d'organisation du travail.
Vous dites que c'est important de les connaître pour répondre à leurs attentes. Si je comprends bien, donc vous êtes prêt à changer, à vous adapter, mais vous l'avez déjà fait pour la génération Y. Alors,
Tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, on parle souvent de la guerre des talents, en tous les cas une difficulté accrue à recruter. Aujourd'hui, on a quand même un rapport de force qui est inversé, c'est aux entreprises, moi je pense, de donner aussi envie aux collaborateurs de nous rejoindre. Et donc, effectivement, on a dû déjà se réinventer parce que la génération Y nous avait déjà pas mal challengé sur notre mode d'organisation. Ils avaient des attentes, je dirais pas si différentes de leurs aînés, mais néanmoins une façon de les exprimer beaucoup plus ferme, beaucoup moins dans le compromis. Donc ça fait déjà 6 ans qu'on s'est fortement transformé et on voulait savoir ce qu'il en était de la génération Z. Est-ce qu'il y avait encore des nouvelles attentes, des choses qu'on devait encore mener en termes de transformation ? Et effectivement, c'est ce que nous révèle l'enquête.
Oui, alors justement, on voudrait savoir ce que révèle l'enquête, mais peut-être avant de nous révéler les résultats, revenir sur l'image qu'on a de cette jeune génération Z et puis les changements. Quelle différence entre la génération Y et la génération Z, Mathilde ?
Alors moi, à titre très personnel, je ne trouve pas que cette génération soit en totale rupture avec la génération Y. Il y a des choses quand même qu'on avait déjà vécues, qu'on entendait. Et donc, je dirais, c'est un peu un prolongement. Effectivement, je rejoins Élodie sur cet aspect digital native qui fait que du coup, ils ont une consommation et des comportements différents. Pas forcément tant vis-à-vis de la génération Y, mais des aînés, des générations précédentes, et qui changent leur comportement, leurs usages et leurs attentes. Moi, la grosse surprise, c'est qu'on entend souvent sur les digital natives, oh là là, ils sont le nez plongé sur leur téléphone, dans les réseaux sociaux, et quelque part, cet aspect très virtuel peut faire peur aussi. Or, justement, ils sont en quête de sociabilisation. C'est pas parce qu'ils sont toujours connectés via des réseaux sociaux, via Internet, qu'ils n'ont pas conscience qu'il est important aussi de se retrouver physiquement. Et c'est ce qu'ils recherchent par le travail. C'est vraiment un aspect de sociabilisation fort. Donc ça, j'ai trouvé ça très rassurant vis-à-vis de cette génération.
Élodie Gentina, est-ce que vous pouvez nous donner ces caractéristiques de cette génération ? Mathilde disait qu'il n'y avait pas de vraie rupture, mais une continuité. J'imagine que vous êtes d'accord, mais pouvez-vous nous parler des caractéristiques propres aux Z ?
C'est exact et je rejoins exactement les propos de Mathilde dans le sens où on a beaucoup de stéréotypes, on lit beaucoup de choses sur cette génération dans les médias, dans les articles, etc. Et on a des idées préconçues et généralement faussées.
On lit tout et son contraire. On a l'impression qu'on n'est pas vraiment d'accord, tous d'accord sur qui ils sont vraiment, non ?
Exactement, on dresse parfois un portrait un peu sombre de cette génération, ils sont hyper connectés, ils ne respectent pas l'autorité, ils sont zappeurs, ils sont slasheurs. Et là, c'était aussi l'objectif, en fait, moi, en tant que chercheur, en fait, à l'ISX School of Management, je suis très souvent sur le terrain pour faire des études, donc à la fois des études quali, des entretiens, des focus groups, mais aussi des enquêtes à grande échelle. Et en fait, je cherche à comprendre en profondeur leur comportement. Et la première idée reçue qu'on a d'eux, c'est qu'ils sont ultra connectés, certes. Ce sont des digital natives. Aujourd'hui, 49% des jeunes en 6e ont un portable, 95% en terminale. Mmh. Donc l'entreprise demain doit être au diapason technologique.
Oui, ils ont une relation instinctive en fait avec les appareils connectés. C'est bien
Exactement. Le smartphone fait partie de leur vie, c'est la fin de l'ordinateur fixe. Mais pour autant, je m'insurge contre cette vision que le smartphone est en quelque sorte, on peut prendre un peu l'image
le doudou. Du doudou. Vous n'êtes numérique. Pas d'accord avec ça, oui.
Voilà, j'ai fait aussi une étude sur la nomophobie, l'addiction au téléphone portable, etc. Mais pour cette génération-là, comme pour d'autres, le numérique, c'est un outil, c'est un prolongement de la relation. La relation, la vraie relation, elle se crée dans le contact, à l'école. Le lien importe plus que
dans le face-to-face,
que le bien.
Quoi. Oui.
Voilà, dans un monde digitalisé, on revient sur les fondamentaux, on revient sur l'humain. Et d'ailleurs, dans l'étude que j'ai menée auprès de ces 2300 jeunes, une des premières attentes qui vient quand on leur pose la question « qu'est-ce qui fait que demain tu as envie de rejoindre une entreprise ?» C'est l'esprit d'équipe. C'est le fait de vouloir intégrer avant tout une équipe avant même l'entreprise. Une autre idée préconçue qu'on a d'eux, c'est qu'ils ne respectent rien, ils ne respectent pas l'autorité. Pourtant ça, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas la révolution. Déjà, la jeunesse ne respectait pas l'autorité du temps de Socrate ou Platon qui disait « les jeunes ne respectent rien ». Mais aujourd'hui, on est face en fait, à une crise, moi je dirais à une crise de la crédibilité des porteurs de l'autorité. On passe d'une autorité de fait à une autorité relationnelle.
Ah, mais le sujet de l'autorité, je pense que c'est un vaste sujet. Il faut vraiment y consacrer quelques minutes. C'est vrai que le tableau qu'on dresse de cette jeune génération n'est pas forcément très reluisant ou positif. Pourtant, il semble très engagé et ouvert à la communication. Et d'ailleurs, nous reviendrons sur l'image qu'il véhicule au sein des médias, dans la société. Mais d'abord, écoutons une chanson.
J'affiche un beau smile matin, midi, soir. Et je pars au gratin en vous disant que ma vie est un cauchemar. Je la résume avec des phrases en latin. J'aime les passants dans la rue avec le prolongement de mon bras dans la main. Je passe malgré mon café dans un filtre en rêvant du jour où on verra ma face placée dans un clip. Je fais des ravages avec mon bigot. J'ai déjà vu vos pins connus. Mon seul but étant de devenir un type connu. Regardez,
le monde tourne autour de ma perche à selfie.
Regardez-moi.
Attendant que ma gueule tourne autour du
regardez.
Le monde tourne autour de ma perche à selfie.
Regardez-moi. Regardez.
Je vois ma gueule sur les photos. Au centre et pas sur les côtés. Hey, ma gueule devant la gueule des autres. Ma gueule sur les photos. Même là où j'ai pas foutu les pieds. Qu'importe le fond, tant que l'image est assez nette. Je veux poser ma gueule à côté de plein ganache célèbre. Avant j'étais personne, mais les flashs me lèvent. Tu peux dire que mes sourires sont falses, je me laisse. Moi t'enfoncer mon ego dans l'œil. Je fais pousser mon bâton en récoltant leur like. Pour nourrir tous mes rêves de grandeur.
Regardez,
le monde tourne autour de ma perche à selfie.
Regardez-moi,
en attendant que ma gueule tourne autour du
monde. Regardez,
le monde tourne autour de ma perche à selfie.
Regardez-moi,
regardez-moi, tu m'aimes.
Perche à selfie, cartoon, évidemment, regardez-moi, puisque c'est aussi comme ça qu'on les présente. On parle de ces jeunes générations Z, on dit qu'ils sont très selfish, égoïstes et très selfie, oui, c'est vrai, peut-être les deux. En tout cas, dans 7 milliards de voisins, nous parlons de la génération Z, parlons de la communication instantanée avec une Z, cette fois Clara Delcroix. Merci d'être avec nous depuis Vilnius, en Lituanie, puisque vous poursuivez là-bas vos études dans le cadre du programme Erasmus. Alors, vous êtes blogueuse. Votre blog s'appelle Gen Z, de pure génération Z. Qu'est-ce que vous pensez du tableau qu'on dresse de votre génération, de l'image qu'on peut avoir de votre génération ?
Alors, je pense qu'avant tout, c'est un peu ambigu parce que parfois, on vient un peu du blanc, du noir, on vient un peu de tout. Mais du coup, parfois, il y a des éléments qui s'avèrent vrais et d'autres qui sont plutôt un peu qu'on peut controverser, disons.
Alors, vous, comment vous présenteriez Comment vous parleriez de votre génération? De toute façon, Gen Z, pure génération, c'est que c'est une pure génération. Pour vous, c'est super. Vous n'auriez pas voulu être dans une autre génération, c'est ça?
Je pense que c'est une génération qui est assez intéressante. C'est-à-dire qu'on est né dans un environnement assez complexe. En gros, on est né avec le terrorisme, on est né en même temps que Google. Pour nous, le numérique fait partie intégrante de notre vie. Et on est aussi certains comportements qui sont très intéressants, comme par exemple le retour à la cuisine. On fait la cuisine nous-mêmes. Et je pense que c'est assez complexe de saisir l'ensemble de la génération, de toute la complexité en fait, de cette génération.
Donc vous vivez aussi bien dans le monde virtuel, dans le numérique, mais aussi finalement vous êtes bien ancré dans la société. Alors on va parler avec vous de communication, j'imagine que vous n'êtes pas trop mail, n'est-ce pas? Alors vous êtes plutôt Insta, Snap, FaceTime, quel mode de communication vous utilisez? Vous en parlez beaucoup.
Disons que les mails, on est obligé de les utiliser pour l'université, pour tout ce qui est boulot avec les anciennes générations entre guillemets.
D'accord.
Mais après, entre nous, on va utiliser, ça dépend du contexte de la personne, mais WhatsApp, Snapchat, Facebook Messenger, des messages pour ceux qui ont des appareils iOS, Apple. Ouais. Mais en mêlant en fait à la fois de la vidéo, de l'audio, des images, du texte aussi.
Alors, est-ce qu'il y a des moyens de communication propres finalement au travail, des moyens de communication plutôt professionnels et d'autres beaucoup plus ancrés dans la vie de tous les jours avec vos amis et les gens qui vous sont proches?
En fait, ça va vraiment dépendre de notre interlocuteur et du contexte. Par exemple, je peux discuter avec une personne, par exemple en vidéoconférence, et en même temps, lui envoyer des messages dans un autre... je sais pas, par exemple, je vais faire la vidéoconférence sur FaceTime et en même temps, dans Facebook Messenger, je vais lui envoyer d'autres trucs. Ou même, parfois, juste par écrit, ça va être sur Instagram, par message, je vais discuter un peu de la vie, du beau temps, tout ça. Et en même temps, en parallèle, sur Facebook Messenger, je vais lui parler des cours, je vais lui dire « Ah, est-ce que t'as complété l'exercice ?» ou voilà.
Est-ce que vous êtes reconnue dans la présentation qu'a faite de vous Mathilde, par exemple, ou Elodie?
J'ai pas entendu.
Ah, vous n'avez pas entendu. Mathilde disait, par exemple, que vous étiez vraiment ancrée dans la réalité, que vous utilisez, oui, le numérique tout le temps, mais que vous aviez besoin de contact. Et Elodie, la même chose. C'est vrai, vous avez vraiment besoin d'aller plus loin que cette connexion avec vos amis, avec les autres. Vous avez besoin de les voir en face à face, faire partie d'un projet. Co-créer quelque chose.
Je pense que j'emporte en général sur le numérique. Si je peux rencontrer quelqu'un en une real life, quoi, IRL, je ferai ça. Je ne vais pas m'embarrasser avec un ordinateur, un téléphone, quoi que ce soit. Et enfin, je pense que dans l'ensemble, on privilégie quand même le fait que...
Mathilde, vous vouliez réagir?
Non, bah, tout à fait. Je rebondissais sur l'usage des outils digitaux et ça vient effectivement impacter aussi la façon dont fonctionne l'entreprise et ça vient même changer le modèle organisationnel, la culture du présentéisme, le rapport au bureau. Alors même si on voit que dans notre étude, comme je disais, 79% des répondants estiment qu'il est très important d'avoir un espace physique où les gens vont pouvoir se retrouver pour collaborer, pour innover. Néanmoins, on voit bien que ces nouvelles générations utilisent plus facilement aussi le Skype, le WhatsApp dans leur façon de travailler. Et donc, ça vient aussi un peu challenger les habitudes certainement de leurs aînés. Je dirais, en fait, quelque part, à chaque fois, on re-questionne. Quand on utilise des outils digitaux, on va aussi venir re-questionner pourquoi se voir physiquement, pourquoi aller au bureau. Et c'est bien de retrouver le sens de tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, l'important, c'est justement de mêler tous ces outils et de revoir l'organisation du travail en termes de flexibilité dans le temps, dans l'espace. Mais aujourd'hui, via ces outils, effectivement, on a des générations qui sont beaucoup plus ouvertes au télétravail, à pouvoir travailler à distance, dans des espaces de coworking, mais pas forcément en majorité, comme je le disais, puisque ça reste important de se voir physiquement. Mais pourquoi se voir physiquement? Pour collaborer, pour innover, pour co-créer, pour partager quelque chose. Exactement.
Quand ça a du sens.
Exactement. Donc ça vient vraiment re-questionner à chaque fois. Pourquoi vais-je au bureau? Qu'est-ce que je vais y retrouver? Si ce n'est pas de l'interaction, peut-être que je peux effectivement travailler à distance. Et là, les outils...
Il n'y a plus ce cadre rigide. En tout cas, ils l'ont fait exploser. Vous avez employé un terme, vous avez dit être challengé. On a l'impression aujourd'hui que l'entreprise est challengée. Vous-même, Clara, vous disiez que vous êtes finalement, aujourd'hui, votre génération est draguée par les entreprises. Ce n'est plus la même démarche qu'avant, c'est-à-dire que les jeunes envoyaient des CV, attendaient d'être pris ou pas. Maintenant, c'est vous qui les challengez en leur demandant finalement pourquoi vous choisiriez leur entreprise et pas une autre. C'est bien ça ?
Oui, tout à fait. En fait, je pense qu'il y a aussi un gros challenge pour les entreprises, c'est-à-dire que nous, on arrive à switcher très facilement entre les différents outils. Et pour des personnes plus âgées, entre guillemets, ça va être beaucoup plus complexe, en fait. Ils ne vont pas comprendre pourquoi on utilise plutôt Facebook Messenger dans ce contexte plutôt que WhatsApp. Parce que pour eux, ça revient au même.
Et pourquoi,
et
d'ailleurs ?
On envoie du texte.
Et dites-nous alors la différence entre Snapchat et WhatsApp. C'est pour l'étranger, ouais, WhatsApp, c'est ça ? Comment vous l'utilisez, par exemple, Snapchat ? Vous l'utilisez pour tous les jours, avec vos amis, avec des filtres ? Enfin, c'est pas très professionnel, j'imagine, Snap.
Ouais, pour un contexte professionnel, ouais. Même pour les cours, je pense que j'aurais moins tendance à utiliser Snapchat.
D'accord.
J'utiliserais plutôt Facebook Messenger ou WhatsApp. Mais après, en fait, tout dépend de l'interlocuteur. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas sur WhatsApp, qui ne sont pas sur Snapchat, qui ne sont pas sur l'un ou l'autre. Du coup, en fait, c'est vraiment, ça s'adapte à la personne qu'on a en face de nous.
Est-ce que vous faites un choix, justement ? Oui, pardon, allez-y, pardon. Elodie.
Oui, moi je pense qu'il est important de rappeler que les réseaux sociaux numériques, ça résout rien. En fait, on reste vraiment sur l'outil. Mmh. L'important, ça reste bien l'humain et les valeurs, comme disait Mathilde, la collaboration, l'engagement, la confiance, l'authenticité. D'ailleurs, on le voit, les entreprises aujourd'hui en matière de recrutement sont en train d'innover pour un recrutement à la fois plus digital, plus flexible, mais aussi plus humain. Aujourd'hui, les entreprises vont sur Snapchat, ils vont sur ces réseaux-là. Hein. Mm-hmm. Amazon va sur Tinder, McDo avait lancé une campagne Snapchat en demandant justement aux jeunes de lancer non pas un CV, une lettre de candidature, mais plutôt une vidéo courte. Et ça permet en fait de faire une première campagne de sélection. Mais ensuite... l'entretien de recrutement face-to-face, ça c'est important. Il y a des changements à faire, c'est l'équipe qui va recruter parce que les jeunes ont envie d'intégrer une équipe et non pas uniquement une entreprise. Et on va avoir un certain nombre de conséquences, tout ça, ça va avoir des conséquences sur les modes de management. Mmh. Est-ce que les jeunes sont toujours fidèles ? C'est quoi la fidélité ? On dit qu'ils switchent, qu'ils zappent, qu'ils sont que dans le digital. Bah oui, en fait, ils sont fidèles, mais la fidélité va changer. On va passer d'une fidélité à l'entreprise, à une fidélité plus sociale, à une fidélité qui est haute, qui sera plutôt collaborative. Est-ce qu'on est sur la digitalisation à 100% ? La réponse est non. On le voit bien aussi, hein, les enseignes,
souvent
les 100% digital,
oui,
ça ne fonctionne
pas. Vous prenez souvent cet exemple. Vous dites qu'au final, le magasin ne pourra jamais finalement disparaître, puisqu'ils ont besoin de ce contact.
Exactement.
Mais pour sur le magasin, je pense que ça va plutôt évoluer. En fait, ça va pas disparaître, mais ça va pas être des magasins tels qu'on les connaît aujourd'hui. Parce
Bien
que
sûr.
Je crois que c'est Decathlon, si je peux citer une marque, qui a fait un magasin où c'est juste les objets en un exemplaire. Comme ça, on peut venir les toucher, voir comment ils sont en vrai. Et ensuite, on les commande en ligne et on les reçoit chez nous.
Ça rejoint votre idée, Elodie, c'est ce que vous disiez dans une des interviews que j'ai pu voir, c'est que, en gros, il y aura peut-être moins de magasins, mais où il y aura un contact humain. Et,
on va être sur des magasins connectés.
Vendeur, hein. Voilà, c'est ça, sera, les gens
le vendeur
seront
devra
connectés.
S'adapter, comme l'entreprise en matière de management, mais le magasin, c'est un endroit, un lieu de socialisation pour les jeunes qui est extrêmement important. L'important, c'est de se retrouver en groupe, c'est d'apprendre aussi à faire du shopping. Enfin, il y a tout un phénomène important qu'on a sur le lieu en magasin comme en entreprise. Par contre, bien évidemment, il y a une évolution. On va être sur, pas de la digitalisation pour ça, mais on va être sur un magasin connecté, on va être sur du digital.
Alors, j'aimerais bien profiter de la présence de Clara pour que vous reveniez sur l'idée de l'autorité. On dit souvent que cette génération refuse l'autorité. Tout à l'heure, vous nous aviez dit qu'elle ne refusait pas l'autorité, mais qu'elle reconnaissait en tout cas quelqu'un de compétent, d'ouvert, qui communique. Donc, le manager devra être différent, pas l'autorité pour l'autorité. C'est bien ça ?
Mmh. C'est exact. En fait, on va passer d'une autorité de fait à une autorité plutôt relationnelle. Ça ne veut pas dire que l'autorité n'existe plus. C'est qu'elle est en train de changer. Par exemple, hein, si je prends l'image du baby boomer ou du X, hein, des autres générations, le modèle d'identification, c'est le maître qui disposait du savoir. Et c'est par le savoir qu'on disposait des outils. Pour le Z, le modèle d'identification, c'est celui, par exemple, qui s'est expérimenté. Le Z n'a pas besoin de lire un mode d'emploi pour accéder au maniement de l'outil. Donc, derrière ça, on a un nouveau rapport à la connaissance, on a un nouveau rapport au savoir, et moi, je suis aussi enseignant-chercheur, hein, en école de commerce.
Justement, vous avez changé votre façon de travailler.
Mais oui. Complètement. Comment aujourd'hui, le professeur, c'est plus un sachant, c'est un coach, un accompagnateur. Bah, le manager de demain, le bon manager, et ce qu'attendent les jeunes, c'est justement un manager empathique, un manager à l'écoute, à proximité. Si on fait un entretien d'évaluation au bout d'un an, mais on laisse le jeune dans la nature, on dit il a besoin d'autonomie, ça ne fonctionne pas. Il a besoin de feedback régulier, sans passer par une espèce de pyramide, de niveau hiérarchique, N+1, N+2, etc. Donc le rapport à l'autorité est différent. Et pourquoi ? Parce que derrière ça, le rapport à la connaissance
est différent. Alors Mathilde Lecosse, j'en profite, puisque là, Élodie vient de parler de l'entretien annuel. Et vous, il y a à peine un an, vous l'avez changé. Vous êtes responsable de l'innovation. C'est aussi ça, innover et s'adapter ?
Tout à fait. Alors juste pour... Je suis totalement en phase avec ce que vient de dire Élodie. En fait, ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, quand on va parler d'autorité ou en tout cas la façon dont aujourd'hui est perçu un bon manager, on revient fondamentalement à de vraies qualités humaines. Avant, un manager, je trouvais que c'était davantage un statut. Et en fait, est-ce que la personne avait vraiment les appétences ou les compétences humaines pour manager ? En tous les cas, aujourd'hui, c'est clairement ça que recherchent les jeunes générations. Et donc, ça nécessite un changement total de la culture managériale, qui, je pense, est le challenge le plus compliqué à mener en entreprise, parce que ça dépend de notre entreprise, et puis aussi c'est très culturel en France. Avoir confiance, donner le droit à l'échec, tolérer l'erreur, coacher, donner envie, faire grandir, c'était pas du tout des choses que faisait naturellement le manager. Il partageait davantage une connaissance. Moi, je suis persuadée que la mise en place du feedback permanent est un outil qui permet justement de remettre la conversation au cœur de l'entreprise. Et c'est via le retour des autres, de ses pairs, de ses équipes, de ses managers, qu'on peut grandir et s'améliorer. Et ça, c'était des choses un peu taboues en fait en entreprise. Et effectivement, la première action pour changer notre culture managériale a été d'abolir cet entretien annuel très infantilisant de fin d'année. On va dire là, c'était bien, c'était pas bien. Et puis une fois par an, bah, autant dire, c'est bien trop tard pour pouvoir s'améliorer. On avait des jeunes collaborateurs qui nous demandaient effectivement du feedback permanent, et le feedback n'est pas de l'évaluation. On n'est pas en train de dire, je trouve que tu as été bon ou mauvais. L'idée, c'est de dire, voilà, je suis ton manager, et via le feedback permanent, à partir d'une situation concrète, je vais te donner des conseils pour la fois d'après être encore meilleur, et puis aussi, je vais pouvoir relever tes talents du feedback positif.
Quand je vous écoute, Mathilde, Élodie, et Clara, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un vrai bouleversement, que c'est une révolution, c'est-à-dire que les rôles ont été inversés. Tout le monde est challengé, aussi bien l'enseignant que le chef d'entreprise. Est-ce que j'ai bien compris ? C'est ce qui se passe aujourd'hui. L'apprentissage aussi est différent. C'est ce que Élodie venait de nous dire. Elle est devenue coach, elle n'enseigne plus de la même manière. Les jeunes s'approprient l'enseignement. Est-ce que pour vous, justement, vous travaillez dans une entreprise d'audit, c'est quand même, l'audit, c'est pas quelque chose de très funky, on va dire, excusez-moi, c'est une génération qui aime kiffer quand même ce qu'elle fait, elle aime prendre du plaisir à faire ce qu'elle fait. Est-ce que vous regardez plus la personnalité ou le CV ? Comment ça se passe ?
Je pense la personnalité, bien sûr, aujourd'hui devient déterminante au-delà des compétences, puisqu'aujourd'hui elle s'acquiert assez facilement en fait les compétences, mais le savoir-être, la personnalité, je pense, est un élément déterminant pour justement aujourd'hui recruter, et ce qui nécessite aussi des nouvelles façons de recruter, puisque un CV ne va pas tout faire. Donc ça nous challenge énormément. Après, je ne suis pas de cette génération génération Z ni Y, on le disait en introduction, mais néanmoins, moi, je trouve que tous ces changements, effectivement, vont dans le bon sens. Mmh. On se reconnecte quand même à l'essentiel. Et je pense que nos organisations, en tout cas les entreprises, et on le voit bien dans l'enquête, il n'y a pas un modèle d'entreprise qui donne spécifiquement envie. On voit bien qu'un quart des répondants préférerait être son propre patron.
Oui.
Parce que je pense qu'il y a une vraie crise de la défiance vis-à-vis de l'entreprise qui est vue comme très processée, très verticale, avec un manque de liberté d'expression de soi, de ses envies, de ses opinions. Et quelque part, bah, c'est ça qu'il faut qu'on vienne challenger dans les organisations. Mais tout le monde s'y retrouve. Hein. Génération Z, Y et même leurs aînés, on a tous envie de comprendre ce qu'on fait, d'y trouver du sens. Et effectivement, aujourd'hui, je pense que le plus important pour ces nouvelles générations, c'est de leur répondre en termes de quête de sens. Ils ne viennent pas forcément pour un métier, mais effectivement pour appartenir à un groupe, et ils ont envie de partager un but commun.
Un projet.
Un projet.
Oui.
Et donc, c'est là-dessus aussi qu'on doit davantage communiquer, en disant derrière la tâche ou le travail, il y a un projet commun, et on va pouvoir ainsi répondre à leur quête de sens.
Et Elodie, c'est ce que vous mettez, voilà, c'est ce que vous mettez en avant aussi dans les résultats de vos études.
Oui, et j'aimerais revenir sur cet élément-là. En fait, il faut quand même rappeler aujourd'hui qu'on est face à l'obsolescence des métiers.
Oui.
Hein, si on reprend le rapport de Dell,
beaucoup de métiers vont disparaître.
85% des emplois de 2030 n'existeront plus. N'existe pas, pardon, aujourd'hui. Et donc, en fait, on est face à l'obsolescence des compétences. Et c'est pourquoi on va se tourner aussi vers les soft skills et non plus uniquement vers les hard skills. Et donc, on va rechercher à recruter une personnalité et non plus uniquement un candidat avec des compétences bien, bien déterminées. Et ça, dans l'apprentissage, on travaille justement sur ça, comment développer chez un jeune l'esprit critique, comment développer la prise de parole en public. Donc on instaure des nouveaux cours, on met en œuvre des MOOC, mais les MOOC par exemple, la digitalisation à 100%, ça ne marche pas, il faut que le professeur soit là.
J'ai l'impression qu'il s'empare de tous ces sujets, il y a énormément de jeunes youtubeurs aujourd'hui ou de jeunes de la génération Z qui n'ont aucun problème à prendre la parole, tout comme Clara. Clara, que je remercie d'ailleurs, merci d'avoir participé à l'émission. On continue.
Oui, la RFI.
7 milliards de voisins, on est toujours à l'écoute.
Alors, cette jeune génération, on continue à en parler dans 7 milliards de voisins, elle cumule aussi multicasquettes. C'est une génération caméléon, on dit slasher. Et pour en parler, nous accueillons Adélaïde Friboulet. Bonjour Adélaïde, merci d'être avec nous. Vous êtes auteur de la chronique Slasher ou l'avenir de la génération Z, ainsi que d'un blog, les chroniques d'Adélaïde. Et comme vous slashez, vous êtes également gestionnaire d'une entreprise de bâtiment et vous dites préférer clairement recruter des jeunes de la génération Z, c'est bien ça ?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Oui, absolument.
Alors, vous slashez, dites-nous comment vous slashez ? Vous passez d'un domaine à un autre, vous vous faites plaisir en fait ?
Oui, tout à fait. Donc, en fait, moi, je suis issue d'une formation de chef d'entreprise du bâtiment. Et je slash parce que je suis aussi attachée de presse.
Ah.
Voilà. Et je suis blogueuse.
Oui. Créatrice de quelque chose encore aussi, de bijoux
oui, pour me détendre.
Voilà. Donc,
pour me déstresser.
Alors,
de mes
slasher,
de dirigeante.
C'est vraiment c'est cumulé, hein. C'est bien ça, des métiers, des passions, c'est ça ?
Oui, oui, tout à fait. C'est aussi cumuler des valeurs.
Oui.
Puisque à côté de ça, je suis vice-présidente d'une commission des femmes d'artisans dans mon département. Je m'occupe de 1200 personnes au niveau de tout ce qui est communication.
Vous slashez parce que vous n'arrivez pas à choisir ou parce que vous avez vraiment besoin de faire tout ça pour être vous ?
Non, par passion.
Par passion.
Tout simplement.
Que dire de plus, Mathilde ? C'est une génération de passionnés, en fait.
Oui, ben exactement. Alors, Adélaïde est vraiment, je trouve, la bonne illustration de ce qu'on entend par slasher et quelque chose que nous, en entreprise, on retrouve très facilement, on le vit au quotidien, des collaborateurs qui ont différentes activités professionnelles en parallèle et ça vient aussi chambouler notre façon d'organiser le travail. Parce que quand aujourd'hui, on a encore beaucoup d'organisations discussions autour du CDI à temps plein. Comment faire pour que ces nouvelles générations puissent pleinement s'épanouir dans leurs différentes tâches? Parce qu'aujourd'hui, et justement, le CDI au temps plein peut faire peur, parce que justement, ils vont se dire, je ne vais pas pouvoir tout slasher.
Élodie, juste un dernier mot, parce que là, on doit finir en moins d'une minute. Slasher, c'est l'avenir aussi? Cumulé.
Alors, slasher, oui. On est rentré dans un nouveau phénomène, l'ère du switch, c'est la fin des voies toutes tracées, où le marché se transforme profondément. On est face quand même à la progression des freelances, 126% en 10 ans. On est face à la pluriactivité qui a été multipliée par deux en 10 ans. Et en fait, on est sur la polycompétence. Ces jeunes veulent en fait travailler dans une entreprise où ils vont multiplier les compétences, où ils vont apprendre. Donc l'entreprise devient une école apprenante, une école partageante, et on n'a pas beaucoup de temps pour développer ça, mais derrière, c'est travailler en mode mission, sur différentes missions, slasher sur différentes choses, et c'est l'intrapreneuriat qui est en train de se développer de plus en plus dans l'entreprise. Je ne parle pas d'entrepreneuriat, je parle d'intrapreneuriat, c'est-à-dire travailler en mode mission dans une entreprise, développer sa boîte dans une boîte.
J'ai l'impression que vous avez complètement bouleversé l'image qu'on avait ou qu'on pouvait avoir de la génération Z en vous écoutant. J'ai vraiment l'impression qu'ils sont engagés, qu'ils savent ce qu'ils veulent et qu'ils sont beaucoup plus profonds. Hein. Ils ont besoin d'une vie équilibrée entre travailler beaucoup et sacrifier sa vie. Je pense qu'ils choisissent l'équilibre. C'est bien ça. J'ai bien compris.
Oui, tout à fait. Alors, je pense que c'est une génération, d'ailleurs, vie pro, vie perso, ça n'existe pas vraiment. Hein. C'est la vie, la vie tout court
connecté.
Et tout est connecté, et je trouve que voilà, c'est une génération qui revient aux fondamentaux. Mmh. Et donc ça, c'est très positif et très enthousiasmant.
Merci à vous toutes. Merci de nous avoir donné cette image. Beaucoup d'espoir pour cette jeune génération. Merci à nos invités. Élodie Gentina, enseignante-chercheuse à l'IESSEC School of Management à Lille, spécialiste de la génération Z, auteur de nombreux ouvrages sur la question, notamment génération Z, des Z consommateurs aux Z collaborateurs, avec Marie-Ève Delécluse aux éditions Duno, et bien d'autres ouvrages. Merci infiniment d'avoir été avec nous grâce aux moyens techniques de France Bleu Nord, que nous remercions. Merci,
Élodie. Merci d'avoir invité.
Merci. Merci beaucoup, Mathilde Lecoz. Vous êtes directrice recrutement et de l'innovation RH chez Mazar France et co-auteur de l'étude La génération Z et le futur of work. Et merci beaucoup parce qu'elle est vraiment très intéressante.
Merci à vous.
Cette étude est très bien faite. Merci à vous, Adélaïde Friboulet, gestionnaire donc d'une entreprise de bâtiment et auteur de la chronique Slasher ou l'avenir de la génération Z, ainsi que du blog Les Chroniques d'Adélaïde, une vraie slasheuse. Merci beaucoup Adélaïde, et merci à vous Clara Delcroix, blogueuse de 19 ans, auteur du blog Gen Z, pure génération Z, sur la plateforme de blogueurs de RFI Mondo Blog. Et merci à vous chers voisins. Alors tout de suite, comme tous les lundis, l'Afrique qui gagne, et le portrait de Dogat Dogui, la cinquantaine, ivoirien et consultant pour des petites et moyennes entreprises. Il y a 7 ans, il a fondé un réseau interafricain de PME, le Africa SMB Forum. Alors ce réseau se réunit chaque année à l'occasion d'un forum. La dernière édition s'est tenue début mars à Abidjan et a réuni une centaine d'entrepreneurs et hommes d'affaires. Pour Dogat Dogui, les entreprises africaines doivent s'unir sur le continent. Charlie Dupio l'a rencontré entre deux avions pour revenir sur son parcours personnel.
Je suis né un 14 février à Abidjan, dans une fratrie de 12 enfants. Mon père, paix à son âme, s'appelait Dogui Adou. Et au lycée, son petit nom c'était Dogat, la contraction de son nom et son prénom. Puis lui, quand il a son premier fils, en 64, donc moi, il m'appelle Dogat Premier. Et c'est comme ça que fille comme garçon, dans cette fratrie, s'appelle Dogat. Dogat Premier, Dogat 2, Dogat 12. Je dirais 12 enfants nés du même père, de la même mère. Et j'en suis parti à 13 ans pour la pension en Côte d'Ivoire, le collège, puis le lycée. Donc je suis venu après le lycée pour passer mon bac en France, en 81, dans une pension catholique où il y avait 17 élèves africains. Donc on a retrouvé une sorte de micro-société, des amis que j'ai encore d'ailleurs aujourd'hui. Et mon père voulait que je sois médecin. Donc après mon bac, bac D à l'époque, biologie, je m'inscris à la fac de Caen en médecine.
En Normandie, toujours ?
En Normandie, toujours, dans l'ouest de la France. Et après deux tentatives de première année en médecine, donc médecine a perdu un étudiant, mais la communication en a gagné un autre. Je crée Africa Agora en 1999. retour aux racines pour rassembler ce qui sera le plus grand réseau de diaspora économique africaine en France. C'est-à-dire jusqu'à 3200 membres. Bien sûr, c'était un club économique d'entrepreneurs, d'hommes d'affaires. Ça a toujours été ça. Comment se mettre ensemble sur un projet. C'est ce qui me motive en fait. Depuis 2012, moi j'ai fait avec d'autres entrepreneurs la mise en place de ce nouveau réseau qui lui n'est pas diaspora, mais il est connecté aux PME africaines. Africa SMB. SMB, je dirais, c'est le business des PME en anglais, hein, bon, les petites et moyennes entreprises, dans lesquelles on a un peu plus de 25 000 entreprises dans 52 pays. Et il y a 31 pays d'Afrique. Ça veut dire qu'il y a aussi des membres qui sont du Chili, qui sont du Canada, qui sont de Turquie, qui sont de Chine, qui sont de l'Inde, qui sont de France, etc. Et qui sont soit des Africains de la diaspora, soit des entreprises qui n'ont rien à voir en termes d'origine avec l'Afrique, mais qui connectent, qui commercent avec des entreprises africaines.
Et ce sont des PME qui œuvrent dans quel domaine ?
Aujourd'hui, 42 secteurs. 42 secteurs, ça veut dire que ça va de la plasturgie à l'environnement, à l'informatique, au transport, à la logistique, etc. Donc, des gens qui sont dans tout domaine. Les échanges interafricains représentent 13% du commerce africain. Donc, l'Afrique commerce beaucoup avec l'Europe, l'Asie, l'Amérique. Et entre elles, entre pays africains, il n'y a que 13%. Donc, ça veut dire qu'il y a encore du grand monde. Sûrement des problèmes de communication, de voies de communication. Si vous ne pouvez pas rencontrer un client parce que les vols ne sont pas réguliers, parce qu'il n'y a pas de chemin de fer. Bon, c'est ça le souci. Hein. Par exemple, avant, pour faire Dakar à Libreville, il fallait passer par Paris.
Quelles difficultés vous pouvez rencontrer à faire se mélanger, se côtoyer des PME ouest-africaines francophones et des PME anglophones ?
Mon vœu, c'est que l'Afrique de l'Est, avec une économie florissante, commerce de plus en plus avec l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, ce qui n'est pas encore beaucoup le cas. Et aujourd'hui, on voit bien que Kenya Airways, Rwanda, ont commencé à faire un travail parce qu'il faut ouvrir des lignes. Le commerce, les échanges passent par des voies de communication. Vous savez, parfois, vous faites deux capitales ou deux métropoles pour un voyage d'une heure et vous payez l'équivalent de 300, 400, 500 euros, ce qui est aberrant. Le monde anglophone, qu'il soit africain ou pas, n'a pas la même approche du business que le monde francophone. Ça, il faut le connaître. Et moi, quand je vois voilà, le Kenya, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, Tamiz Bonnet.
Tant c'est de l'argent.
On traduit pour ceux qui ne sont pas, comme moi, très fluents en anglais, c'est-à-dire très à l'aise. On va droit au but et on est décomplexé tout de suite pour parler argent. Et puis, c'est la facilité aussi. Si je suis en Tanzanie ou aux Comores, je vendrai en Inde ou dans les Émirats plus facilement. Je ne vais même pas penser à aller vendre au Sénégal. Parce que je me dis, est-ce qu'ils vont consommer mes produits? Je n'ai même pas ça en tête. Et donc, une entreprise africaine qui cherche des débouchés, qui veut exporter ses produits, doit pouvoir trouver dans ce réseau les solutions à son problème. Il y a peut-être un marché pour vous en Tanzanie. Encore faut-il le rechercher. Le commerce intra-africain est une chance du développement des PME africaines. Donc, je suis en fait le médecin du business et de la communication. Voilà, donc j'ai trouvé une autre voie. Ce n'est pas dans la santé, c'est dans les affaires. Plus elles en gagnent, plus j'en gagne. Et Dieu merci, elles en gagnent. Donc moi aussi.
Dogat Doumoui, qu'est-ce que c'est pour vous, l'Afrique qui gagne ?
L'Afrique qui gagne, c'est sa jeunesse. Je suis un profondeur de tous ceux qui considèrent que la démographie africaine est une malchance, est une tare. Pour moi, c'est une chance. À condition de mettre ce qu'il faut pour la nourrir. Et il ne faut pas entendre forcément de la part des grands groupes de l'État, de vos employés. C'est comment on se met ensemble à plusieurs pour lancer une activité parce qu'il y a des besoins à couvrir. Et les besoins sont immenses. La chance que l'Afrique a avec cette jeunesse, c'est une chance de pouvoir la mettre au travail.
C'était l'Afrique qui gagne. Merci à tous nos voisins aujourd'hui qui ont participé. Emmanuel Djour qui nous a écrit Macan de Bamako et également Kissa Hussein du Bénin. Merci à toute l'équipe de 7 milliards de voisins. Merci à vous Sigrid Azeroual, Delphine de Danios, Romain Dubrac, Arthur Toussou et Alice Ménard. Et évidemment Emmanuel Bastide pour sa confiance. 7 milliards de voisins, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons demain pour parler des élections législatives en Inde et de la place des femmes dans ce scrutin. D'ici là, n'oubliez pas que vous pouvez réécouter nos émissions sur l'appli RFI, Pure Radio, rubrique magazine et nous retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram. Et à demain les voisins.